Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal, Ronéline Sibonera.
Merci de nous suivre à Bunia où il est 9h. L'évacuation des cas suspects de la maladie à virus Ebola d'Ariwara, Adja, Angba et Adi vers les centres de traitement d'Aru ne sera plus un casse-tête pour le personnel médical à Ituri. L'Ouganda vient d'appuyer cette zone avec du matériel médical afin de renforcer la riposte. La communauté de Luboudi est sous le choc. Nous sommes dans la province du Lualaba. Un camion Owo en provenance de Mbujimayi a causé la mort de 13 personnes ce week-end. Pendant ce temps, au Nord Kivu, disparu depuis des jours, l'avion cargo de Tracep Congo a été retrouvé dans les territoires de Walikale après s'être écrasé. Nous recevons Nico Ilunga, coordinateur adjoint chargé de la formation et de la vulgarisation à la division provinciale de l'agriculture au Kasaï Oriental. Il prodiguera des conseils aux cultivateurs des feuilles de manioc en cette période sèche afin d'assurer la disponibilité du produit sur les marchés de Mbujimayi. Lutte contre Ebola, l'Ouganda s'implique. Le pays de Yoweri Museveni vient de doter la zone de santé de Aru, située à 260 km de Bunia, de 5 ambulances et d'importants lots d'équipements destinés à renforcer, bien entendu, la riposte contre la maladie à virus Ebola. Cela entre dans le cadre de la coopération sanitaire RDC-Ouganda. Et selon les autorités sanitaires de cette partie de l'Ituri, plusieurs zones de santé du territoire de Aru manquent encore de moyens logistique pour assurer les transferts rapides des patients, ce qui augmente les risques de propagation de l'épidémie dans ces territoires frontaliers avec l'Ouganda, là où justement plusieurs dizaines de cas confirmés et des décès ont déjà été enregistrés. Isaac Remoyope.
Le lot remis vendredi à la zone de santé d'Aru comprend 5 ambulances, 50 lits, 50 matelas ainsi que des divers équipements médicaux destinés à renforcer la prise en charge des malades d'Ebola. Ces équipements serviront également aux zones de santé voisines d'Ariwara, Adja, Aumba et Adi, situées à près de 90 km d'Aru. Jusqu'à présent, ces structures éprouvaient d'importantes difficultés pour évacuer rapidement les cas suspects vers les centres de traitement d'Aru, une situation qui favorisait les risques de propagation de l'épidémie selon des sources médicales. Le médecin-chef des zones de santé d'Aru estime que cet appui logistique permettra de renforcer la riposte ainsi que les mesures de prévention contre Ebola dans ces territoires frontaliers. Il ajoute que la forte mobilité des populations, notamment provenance des Mongolo et des Bunia, des zones touchées par l'épidémie, accroît le risque de nouveaux cas. Malgré ces renforcements des capacités logistiques, les défis demeurent nombreux. Les équipes de riposte font notamment face à la résistance de certains habitants au respect des mesures de prévention, au manque de laboratoires mobiles dans plusieurs zones de santé, autant des facteurs qui compliquent la lutte contre l'épidémie. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Vous l'avez laissé transparaître, Isaac Remoyope. L'épine au pied des acteurs de la lutte contre Ebola reste la résistance de certaines communautés à la riposte. Les agents communautaires déployés dans plusieurs villages des 5 provinces de la RDC, touchés par la maladie à virus Ebola, continuent de faire face à des comportements tels que les non-respects du lavage de mains, de la distanciation sociale ou encore le refus des enterrements dignes et sécurisés. Une situation qui est à l'origine de l'explosion des cas. Toutefois, les experts restaient optimistes. Il est possible d'inverser la tendance en capitalisant sur les acquis des précédentes épidémies et en renforçant les structures sanitaires locales, explique-t-il. C'est un reportage de Elache Mbalou.
Pour Placide Nzilamba, secrétaire technique au sein du bureau de la Société civile du Nord Kivu, l'explosion des cas observés ces derniers jours résulte de la non-capitalisation des acquis des campagnes antérieures. Il déplore que les organisations intervenant sur le terrain se limitent à exécuter des projets sans penser à leur pérennisation.
Mais les prérequis des autres épidémies passées, comment on les a gérés? C'est ça le problème. On a eu Covid ici. Est-ce que tous les centres de traitement de Covid, partout il y en avait, est-ce qu'il y en a encore?
Au-delà de ces défis de capitalisation, Umbo Salama, spécialiste en communication, plaide pour une approche plus inclusive. Selon lui, la liste doit intégrer le chef des villages et les leaders influents afin de renforcer l'adhésion communautaire.
Savoir identifier les leaders d'opinion. Si je passe par tel leader, est-ce que mon message va passer? Ou soit que chaque leader, je prends chaque leader dans chaque couche de la société et c'est chaque couche qui peut faire à ce que Moi, pour que les gens qui sont autour de moi puissent rentrer, ce que j'aimerais dire, il faut que je les parle de cette manière-là.
Mardi dernier, l'OMS a averti que la maladie à virus Ebola continue de se propager rapidement dans certaines régions du pays. Selon ces statistiques, plus de 1000 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de cette 17e épidémie déclarée le 15 mai dernier.
Lutte contre Ebola encore. Le gouvernement congolais de son côté demande aux partenaires engagés dans la riposte contre la maladie d'investir dans des infrastructures sanitaires durables. Objectif, renforcer les systèmes de santé et permettre à ces ouvrages de servir également à la prise en charge d'autres maladies après l'épidémie. Cette recommandation fait suite aux appels des médecins chefs des zones de santé qui plaident pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures sanitaires en Ituri, dont plusieurs sont déjà vétustes, détruites ou dégradées par les conflits armés. C'est un reportage signé Isaac Remoyope.
En Ituri, la plupart des centres de traitement et d'isolement d'Ebola sont des installations provisoires construites avec des bâches, des planches ou d'autres matériaux légers. Il en est de même pour plusieurs postes de contrôle sanitaire installés le long des accès routiers où s'effectuent les lavages de mains et la prise de température. Dans certaines zones, les équipes de riposte travaillent même dans les anciens bâtiments hospitaliers, souvent vétustes ou abandonnés, ce qui limite les capacités d'accueil des structures de santé. Face à cette situation, le gouvernement demande aux partenaires de privilégier la construction d'ouvrages permanents en matériaux durables capables de répondre aux besoins sanitaires au-delà de l'épidémie d'Ebola. La ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires, Eve Bazaïba.
Nous avons tous visité les sites. Bravo à nos partenaires que nous allions dans l'approche humanitaire de la durabilité, des relèvements de la population. Il nous faut vraiment une construction durable. Beaucoup de dépenses que nous avons faites, mais pour combien de temps nous allons les tenir? En dehors d'Ebola, d'autres maladies peuvent être prises en charge si nous allons dans une approche de durabilité en termes d'infrastructure.
Signalons que les conflits armés continuent d'affaiblir les systèmes de santé avec de lourdes conséquences sur l'accès aux soins, en particulier pour les populations déplacées. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Cap sur l'Ouboudi à présent où 13 morts et 35 blessés, c'est le bilan encore provisoire d'un accident de circulation survenu samedi. Nous sommes dans la province de Lualaba. Le conducteur du camion Oho transportant plusieurs passagers en provenance de Mbujimayi a perdu le contrôle de son véhicule avant qu'il ne tombe dans les bas-côtés de la route. L'excès de vitesse serait la cause de ces drames selon des témoignages. Cet accident et les énièmes enregistrés sur cette route. D'autres détails avec l'administrateur du territoire de l'Ouboudi, joint par Jean Gandou.
Les camions provenaient de Mbujimayi vers le Haut-Katanga à Lubumbashi. Arrivé au niveau de 10%, c'est à 35 km de l'Ouboudi cité, l'Ouboudi chef-lieu, vers Ngouba, que le chauffeur a perdu le contrôle de son camion et il s'est jeté dans un petit ravin qui était juste à côté. Et avec une erreur de vitesse, c'est comme ça qu'on a connu cet accident. Il y a un bilan provisoire de 13 morts et 35 blessés graves qui sont tous acheminés à l'Ouboudi chef-lieu pour les soins éventuels. Et les corps sont en train d'être acheminés pour être gardés à la morgue en attendant que la province puisse nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est un peu ça le bilan jusque-là.
Autre drame, c'est un avion retrouvé après sa disparition au Nord Kivu vendredi. L'appareil, c'est un avion cargo de la compagnie Traceb Congo Aviation, porté disparu alors qu'il effectuait un vol entre Beni et Kachungu dans le site Kivu. Un avion bien sûr qui a été retrouvé dimanche, écrasé malheureusement dans les territoires des Walikale. Un de deux membres d'équipage a survécu, tandis que le commandant des bords a perdu la vie, tel que l'est dit ici Martial Papi Mukeba.
L'avion de type LT-L410 de la compagnie Traceb Congo Aviation a été localisé dimanche soir dans la zone de Kamaninge près du village de Buruko en territoire de Walikale selon des sources concordantes de la compagnie et de la régie des voies aériennes, la RVA. L'appareil avait décollé vendredi à 12h36 heure locale de l'aéroport de Mavivi à Beni avec deux membres d'équipage et près de 2 tonnes de marchandises à destination de Kachungu dans le territoire de Shabunda au sud Kivu. Selon Nos informations, quelques minutes après le décollage, le commandant de bord a lancé un message de détresse à la suite d'une panne de l'un des deux moteurs. Il a alors tenté de se dérouter vers l'aérodrome de Walikale avant que tout contact radio ne soit perdu. Des recherches ont été engagées dès vendredi avec notamment des équipes de reconnaissance déployées au sol. Selon des sources de la compagnie, le copilote a été retrouvé dimanche après-midi dans la zone de crash près de Buruko. Le commandant de bord, en revanche, n'a pas survécu à l'accident. Les circonstances exactes du crash restent à établir. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes vole au secours de ces différentes agences dans le Congo central. 12 structures bénéficient désormais des 12 camions de 20 tonnes, 12 véhicules tout terrain, 22 tracteurs avec accessoires, 72 motos, 34 tricycles, 48 ordinateurs portables ainsi que des imprimantes et autres photocopieuses. La cérémonie de remise de ces biens s'est tenue samedi à Matadi. Mission du PIFORES, permettre à ces agences de booster les activités du programme sur le terrain, notamment par la restauration des forêts et des savanes, le développement des plantations agroforestières et l'accompagnement des communautés locales face aux effets des changements climatiques. Détail depuis Matadi avec vous, Élisée Kavira.
Cette remise d'équipement marque le démarrage effectif des interventions du PIFORES dans les 10 territoires du Congo central. Objectif, restaurer les forêts et les savanes, développer les plantations agroforestières et lutter contre les effets du changement climatique afin de préserver l'environnement et d'améliorer durablement les conditions de vie des communautés locales. Dans son allocution, le ministre provincial de l'Environnement, Alain Mambou, a indiqué qu'au-delà de la restauration des écosystèmes et de la protection de l'environnement, ce programme permettra aussi de renforcer la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Il a par ailleurs souligné que cette initiative contribuera à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans les zones d'exécution des projets. Selon le chef d'antenne provinciale du PIFORES, Dieudonné Matondo, ces équipements ont été remis pour répondre aux difficultés que rencontraient les agences locales sur le terrain. Dans cette même dynamique, le coordonnateur national du PIFORES, Clément Vangouloutété, a réaffirmé l'engagement du programme à accompagner les communautés locales à travers la mise en œuvre des activités prévues, notamment l'élaboration des plans d'aménagement des villages et le développement des plantations agroforestières. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Changement des saisons. Les habitants de Mbujimayi peinent à s'y adapter. Ces variations climatiques de plus en plus extrêmes provoquent des nuits étouffantes, des matinées parfois fraîches et des pics de chaleur à la mi-journée. Un phénomène qui s'intensifie chaque année à la même période et qui oblige la population du Kasai oriental à revoir ses habitudes pour se protéger, selon les médecins, les climatologues et les environnementalistes. Esther Ndalafina pour le reportage.
Dans les ménages de toutes les communes, les témoignages se ressemblent. La nuit, les températures restent élevées, rendant le sommeil difficile. À l'aube, une fraîcheur soudaine s'installe avant que la chaleur ne frappe de nouveau. Selon le professeur Alphonse Kambi, spécialiste en climatologie, ces variations sont des manifestations du changement des saisons. Il souhaite que les populations se couvrent pour se protéger des maladies.
Le corps ne peut pas s'habituer à des changements brusques comme ça de température. C'est pourquoi il est recommandé de se couvrir plus légèrement lorsque il fait un peu chaud, vers le matin, se couvrir avec un habit un peu lourd pour se protéger.
Pour Dr Jean-Pierre Soumba, chargé des maladies à la division provinciale de la santé, la population doit boire beaucoup d'eau.
Si nous prenons les effets directs, vous verrez par exemple des vagues de chaleur qui peuvent amener à une déshydratation chez quelqu'un et augmenterait même la mortalité, surtout chez les plus âgés et les enfants. Il faudrait boire beaucoup, il faut peut-être se laver, mais aussi améliorer l'assainissement.
Ingénieur agronome Nico Ilunga recommande également d'adapter l'alimentation pendant cette période.
Quand il fait tellement chaud, nous connaissons la déshydratation. Il faut consommer surtout les légumes, là il y a abondance de liquide là-bas.
Entre nuits suffocantes et journées brûlantes, les habitants apprennent à vivre avec un climat devenu imprévisible. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Parlons vacances à présent avec cette floraison d'espace destinée à occuper les élèves au Kasai central. La ville de Kananga connaît une recrudescence de ces lieux de jeu, mais pas seulement. Ces espaces alternent enseignement et loisirs pour le plus grand plaisir des enfants et la satisfaction des parents. Objectif, mettre les élèves à l'abri de plusieurs risques tels que les violences ou les mauvaises fréquentations. Il faut dire aussi que plusieurs organisations ont ouvert ces espaces sûrs où les enfants jouent, apprennent et s'épanouissent en même temps et surtout en toute sécurité. André Katendengala Mouloumé pour le reportage.
Des éclats de rire, de chants et de jeux, à Lukonga, des dizaines d'enfants vivent leurs vacances autrement dans un espace sûr de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Ici, pas de longues journées passées dans la rue. Les enfants participent à des jeux éducatifs, ils lisent et apprennent sur l'hygiène, la santé, le civisme, leurs droits et aussi les vivre ensemble.
On nous donne des bons enseignements qui peuvent nous aider dans la vie. Et après ces enseignements, nous jouons. Ça nous fait plaisir d'être ici.
Cet espace offre bien plus que des loisirs. Il protège aussi les enfants contre les violences, les abus et les mauvaise fréquentation. Il les aide à reprendre confiance en eux. Pour Joyce Chubwabwa, encadreuse, les vacances restent une période sensible. Sans activité, certains enfants deviennent plus vulnérables.
Pendant cette période de grandes vacances, les enfants peuvent être éparpillés. Maintenant, avec cet encadrement, on va les unir. Ça va aider à ce que ces enfants ne puissent pas succomber, surtout dans les VBG.
Les parents saluent cette initiative. Ils estiment que ces espaces occupent utilement leurs enfants pendant qu'ils travaillent. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a lancé un nouveau parti politique officialisant sa rupture avec l'ancien premier ministre Ousmane Sonko et le parti PASTEF au pouvoir qui l'a porté. D'ailleurs, nous sommes en 2024. Le parti du président sénégalais est Kirai, qui veut tout simplement dire bouclier en Wolof, une langue locale.
L'invité.
En cette saison sèche, plusieurs marchés de la ville de Mbujimaï affichent une abondance d'amarants, de choux, pommes et de choux de Chine. À l'inverse, le fait de manioc se font de plus en plus rares. Malgré ces disponibilités de légumes des saisons sèches, certaines ménagères soupçonnent que des produits sont cultivés. Donc les produits, là je parle des amarantes, sont cultivés à l'aide d'engrais chimiques avec des risques pour la santé. Pour comprendre cette situation, nous avons approché les services de vulgarisation agricole à la division de l'agriculture au niveau de la province du Kassai Oriental. Et là nous avons croisé ingénieur Nico Ilunga qui a accepté de répondre aux questions de Esther Dalafina.
Bonjour, ingénieur Nico Ilunga.
Bonjour, madame la journaliste.
Oui, quelles sont les principales causes de la rareté des feuilles de manioc observées actuellement sur les marchés locaux?
La rareté observée sur les feuilles de manioc sur nos marchés locaux, c'est dit diminution des taux d'humidité dans les sols. Comme nous sommes dans une période de sécheresse, la sève qui devrait être absorbée s'est facilitée par l'eau. Comme il n'y a pas la pluie, il y a diminution d'humidité. C'est ainsi, les feuilles se sèchent d'un moment à l'autre.
Cette pénurie affecte-t-elle les habitudes alimentaires?
Carrément, ça affecte les habitudes alimentaires parce que les feuilles de manioc, par exemple, c'est un légume courant qu'on utilise dans nos ménages, surtout dans notre province du Kassai Oriental.
Et pourquoi observe-t-on paradoxalement une abondance d'amarantes et de choux alors que les feuilles de manioc se raréfient?
Oui, carrément, les amarantes sont des légumes verts qui se développent beaucoup plus en saison sèche à cause de l'arrosage. On utilise l'arrosage pour les multiplier, pour amener un peu les taux d'humidité voulus par ces cultures-là. Et ensuite, ce sont des cultures qui ne s'adaptent pas beaucoup mieux dans la saison des grandes pluies. Parce que ces cultures n'acceptent pas beaucoup d'humidité. S'il y a trop d'humidité, sur un plan de développement végétatif, ça cause des problèmes. Il y a des parasites, des maladies qui vont se développer. Dans les sous-sols, il y a pourriture, des racines. Par exemple, chez les choux, là, il y a pourriture si on les fait dans des saisons de grande pluie. Mais dans des saisons sèches, quand on apporte l'arrosage, les taux d'humidité est calculé, ce n'est pas du tout annexé pour créer cette pourriture. Même les choux de pommée, là, en cas d'une forte humidité, ça s'éclate. les pommes là s'éclatent. Sur le plan économique, l'agriculteur, nous lui demandons de faire l'agriculture maraîchère pour avoir un revenu en main. Alors, il travaille cela pour avoir un gain. Maintenant, pendant la saison de pluie, le rendement est faible, il ne profite rien tant que les semences maraîchères coûtent extrêmement cher.
Certaines ménagères estiment que le maraîcher utilise des engrais pour accélérer la croissance des amarantes et des choux. Cette perception est-elle fondée et quels sont les risques liés à une utilisation excessive d'intrants agricoles?
Bon, exactement. Les agriculteurs utilisent un peu de fertilisant pour activer la croissance rapide. Mais ce que je peux recommander en tant que vulgarisateur agricole, c'est l'utilisation rationnelle. Parce que pour ne pas intoxiquer beaucoup plus les consommateurs, plus qu'on met en excès de fertilisants sans calculer les doses concernées, ça intoxique tout consommateur de ces légumes. C'est ainsi que nous leur demandons qu'ils puissent de temps en temps recourir aux techniciens agronomes pour connaître la dose appropriée à mettre à ces cultures-là.
Oui, en tant qu'agronome, quels sont les conseils pratiques pouvez-vous prodiguer à la population pour faire face à cette période de pénurie tout en observant la qualité de leur alimentation?
En tant qu'agronome, ceux qui aiment beaucoup plus consommer les feuilles de manioc, je leur demande si le réunit les conditions d'arrosage, il peut toujours régénérer la croissance de leurs feuilles de manioc et en consommer comme d'habitude. Mais malgré que nous avons une pénurie d'eau, pour réunir ces conditions, ça pose un peu de difficultés. Alors, les légumes qui se vendent au marché choux, c'est vraiment nutritionnel pour la santé de l'être humain. Si vous voyez les gens qui viennent de l'Orient, ils en consomment beaucoup plus parce qu'ils savent le contenu et l'importance de ces choux dans l'organisme humain. De notre côté, dans notre province, c'était un peu rare, c'est une habitude qui vient pour pallier. Parce qu'une alimentation équilibrée, il faut aussi des légumes verts. Alors pour pallier à ça, il faut en consommer beaucoup plus, s'adapter. Et quant aux agriculteurs, je leur demande une utilisation rationnelle quand ils pratiquent l'agriculture maraîchère pour ne pas surdoser les cultures avec beaucoup d'engrais pour récolter si vite. Il faut qu'il y ait une utilisation rationnelle pour sauvegarder les vies humaines.
Ingénieur Nico Ilunga, merci.
Je vous remercie particulièrement de votre entretien.
Mesdames, Messieurs, la plus belle femme du monde est Donke Sekela. C'est la fin de cette édition présentée par Ronéline Thibonera Idiamine, mise en onde par Gisensiala et coordonnée par Lievin Bouinga.